Qui veut tuer l'immobilier en France ? Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 13 avril 2022.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau colloque d'éthique « Qui veut tuer l'immobilier en France ?» avec un magnifique panel. Vous allez voir les professionnels de l'immobilier, des points de vue différents du débat. Ça se passe chez Web Radio Édition avec un canevas en forme de classe. Dans la première partie, ce thème « L'accumulation des erreurs ». D'abord, on fait un diagnostic. Table ronde numéro 2, on ramasse les copies. L'innovation pour sauver l'immobilier avec une maîtresse. Pas une maîtresse d'école, la maîtresse de maison, bien sûr. Sophie de Menton, présidente d'Éthique, entreprise à taille humaine, indépendante et de croissance. Une organisation que vous connaissez bien, patronale, et un mouvement d'influence représentatif du tissu entrepreneurial français, puisqu'il fédère tout de même un écosystème de plus de 300 entreprises de toute taille, CAC 40, ETI, PME, TPE, issus de tous les secteurs, ainsi que 16 fédérations. Pas mal, Sophie de Menton, bonjour.
Pas
bonjour.
Mal du tout.
Je présente juste les invités et je vous donne la parole, puisque nous sommes face à Jean-Marc Torollion qui ouvre ce colloque, président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, bien sûr. Jean-Marc Torollion, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cet événement. Et à vos côtés, l'inégalable Sylvain Lévy-Valenzi, tous les professionnels de l'immobilier et d'autres veulent être à la table avec lui. Vous avez de la chance, Sylvain Lévy-Valenzi, comment ça va ?
Ça va bien, Fabienne.
Merci. Merci d'organiser ce débat dans une période absolument cruciale en France et pour l'immobilier. Effectivement, il y a des enjeux cruciaux. C'est pour ça, Sophie de Menton, que vous avez voulu lancer le débat ?
C'est pour ça, chère Fabienne. Je vais même rajouter que vous avez oublié que c'est important. On a Jean-François Copé qui vient entre les deux tables rondes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle justement du sujet crucial. Oui, on peut reconstruire les banlieues. Parce que c'est effectivement... Il l'a fait la preuve, d'ailleurs, dans sa ville. Et ce thème, je trouve que... Vous me direz ce que vous en pensez. Il est finalement le socle de toute la campagne électorale. Pourquoi ? Parce que la sécurité, l'angoisse, les ghettos, l'intégration, l'économie, la proximité des salariés, de leur travail, le télétravail, tout y est. Les résidences secondaires, le paysage français, tout réside finalement dans la problématique de l'immobilier. Et cet immobilier, c'est parce qu'on a laissé faire, et on le verra, et qu'on n'a pas du tout encouragé ce qui devait être fait, qu'on a des concentrations, que les villes ont des quartiers pas possibles, que les jeunes ménages ne peuvent plus du tout se loger dans les villes, que les transports sont saturés. Et moi, je trouve que c'est fantastique. Et tout au long de cette matinée, chère Fabienne, je pense qu'on pourrait essayer de relier ça à des programmes économiques que les politiques ont ignoré, mais complètement ignoré. Alors, peut-être aussi parce que l'immobilier, c'est synonyme d'argent. D'ailleurs, maintenant, la preuve, on a taxé l'immobilier. On a enlevé l'ISF, le président de la République la dernière fois, et pour quand même taxer les riches, entre guillemets, on a taxé l'immobilier. Là, il y en a qui ne veulent plus taxer l'immobilier, mais remettre l'ISF. Et donc, c'est vraiment symbolique, alors que tous les Français veulent être propriétaires, que c'est leur rêve absolu, et c'est symbolique du capitalisme, ils sont riches, ils ont des belles maisons, etc. Donc, on a tout à remettre à plat.
Jean-Marc Torollion, le marché du logement a déjoué les pronostics l'année passée. Nouveau record de transactions, 1,2 million de logements vendus, des niveaux de prix en hausse. Dans un marché ultra dynamique, la percée des réseaux de mandataires se poursuit, signe que c'est un modèle toujours en évolution en France. Pourtant, cette question se pose, qui veut tuer l'immobilier en France ? Parce que des quoi qu'il y en a eu, des PE, encadrement des loyers, l'acte de construire en France semble trop souvent devoir être légitimé. Alors vous êtes complètement légitime pour nous répondre. À l'issue de ce quinquennat, l'immobilier est-il en crise selon vous ?
Ça dépend comment on le regarde au fond, puisque vous venez de l'introduire. Si on le regarde au niveau de l'activité proprement dite, on vient d'avoir des records d'activité. Donc on a le marché de la transaction le plus dynamique d'Europe après celui de la Grande-Bretagne. On a un marché de la location qui tourne et on a un marché de la copropriété qui est, j'allais dire, en action avec beaucoup de problématiques devant soi. Mais après, quand on a dit ça, Moi, je retiens plusieurs choses. D'abord, si l'immobilier est une affaire d'argent, l'immobilier est surtout une affaire du temps long. Et on mesure l'efficacité d'une politique à l'aune d'une certaine durée. Première erreur, c'est de parler de choc d'offres dans l'immobilier. C'est un non-sens. On a parlé de choc d'offres. Il n'y a pas de choc d'offres.
Pardon, et je vous interromps, pourquoi ça marche aujourd'hui ? C'est très intéressant ce que vous dites. Et de ce fait, pourquoi vous dites on a connu une croissance formidable ? Donc cette croissance, elle est liée à ce qui s'est passé il y a combien de temps ?
Moi, je pense qu'on a le résultat des 5 années qui précèdent. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, on a l'accumulation d'une richesse des Français, d'un pouvoir d'achat. Et contrairement à ce que l'on peut penser, l'effet taux, plus l'effet revenu, a largement gommé l'effet prix. Mais largement, c'est-à-dire a constitué du pouvoir d'achat. Et l'expression de ce pouvoir d'achat, il est venu sur ce quinquennat-là, accéléré par un phénomène très important. Ce quinquennat a commencé sur l'aune de la métropolisation et il finit sur l'aune de la démétropolisation. Les Français ont voté par leurs achats immobiliers pour la périurbanité, pour la ruralité, pour une certaine forme de vie différente, avec une reconsidération du lien emploi-logement. On a commencé avec un choc d'offres, c'est un échec. On a commencé aussi avec une vision qui était soi-disant la rente de l'immobilier. Et ça, ça a fait du dégât. Souvenons-nous ce qu'a dit Emmanuel Macron sur l'immobilier. Et l'IFI en est finalement l'expression fiscale d'une certaine vision. Et puis, on a également commencé avec quelque chose qui était lisible, à savoir la loi Elan et la réforme de la copropriété, et fini sur quelque chose qui n'était pas prévu, climat et résilience, avec tous les enjeux patrimoniaux que cela implique.
Sylvain Lévy-Valenzi, on parle, quand on parle bâtiment, certains croient que c'est du béton, du ciment. Mais non, on parle d'hommes et de femmes. Du point de vue de la démographie, il semble que la date 1982 soit une date clé. Pourquoi
alors,
dit-on cela ?
C'est une date clé. Non, mais c'est très intéressant là, de faire aussi ce que si on veut savoir où on va, au corps faut-il savoir d'où on vient et connaître l'histoire. J'avais pris quelques éléments. À l'époque, en 1982, Yvon Gattaz, président de la SNPF, et Jacques Damon, le président de la FFV, avait hurlé au grand cri devant Pierre Mauroy en disant il y a un choc dans la construction dans le pays. Et à l'époque, la démographie, c'était 54 472 000 habitants en France. Et à l'époque, on était sur un périmètre d'environ 470 000 logements en moyenne produits. Il faut savoir que la dernière production 2021 en logements neufs, c'est-à-dire les autorisations, les permis de construire, c'est 471 000. 2017, c'était 497 000. C'était 460 000 en 2018. En 2019, c'est 449 000. 2020, c'est 381 000. Le problème, je vais vous dire, Fabienne, c'est qu'il y avait 54 millions de Français à l'époque, en 1982, il y en a 13 de plus. Il y a 67 millions de personnes, avec une explosion des cellules monoparentales.
Où est-ce
notamment,
qu'on va les
mettre ? et un besoin de logement. Donc, au-delà de ce que dit Jean-Marc Torollion et Sophie, on parle du logement des Français. C'est-à-dire qu'on parle du premier poste de dépense des Français, on parle d'un besoin maslonien, c'est-à-dire celui de se couvrir, de se vêtir et de se réchauffer.
Besoin primaire.
C'est-à-dire d'un besoin primaire. Et donc, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a ce qu'on appelle des contraintes absolues. C'est-à-dire qu'on a une politique qui est menée avec une inflation normative qui, en fait, égorge littéralement les marges de manœuvre des promoteurs, des opérateurs immobiliers dans toute la chaîne des métiers des valeurs de l'immobilier. Et à côté de ça, on a un discours qui est un discours parfois un peu populiste dans le sens où on a bien finalement le devoir de loger les Français. Et ce qui est très intéressant, ce que disait Jean-Marc Trollion, est fondamental, c'est même un changement anthropologique. C'est qu'on voit qu'on a atteint un certain niveau de métropolisation, une espèce d'apogée de la métropolisation. Et donc, les territoires qui étaient en déshérence, cette fracture territoriale qui avait été larguée, finalement, par les politiques publiques depuis plus de 40 ans, est en train de retrouver des couleurs. Parce qu'effectivement, à l'appui d'une technologie, certes, du télétravail, on redécouvre, en fait, des territoires qui, aujourd'hui, redeviennent, entre guillemets, « bankable ». Donc, ce sont des leviers de croissance. Encore faut-il que, pour aménager ces territoires, et je crois que Jean-Marc a beaucoup d'idées sur cette question, faut-il avoir des politiques publiques offensives ? Voilà.
Absolument, Jean-Marc Torollion. Quels sont vos souhaits pour éviter la crise ? Davantage encore.
Je réagis juste à ça. Les politiques publiques, j'en peux plus. Je veux dire qu'il y a un moment où cette certitude de l'État de savoir parfaitement ce qu'il faut faire, de mettre des normes d'ailleurs quand il ne faut pas, d'encourager là où il ne faut pas, de penser qu'ils savent très très bien le secteur sur lequel qui va être le secteur de pointe qui va marcher, et qui pour après revenir évidemment sur leurs décisions. Je pense, alors c'est une question que je pose à tous les deux, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de politique publique ? Est-ce que la loi de l'offre et la demande est simplement de considérer que l'environnement qui est lié à la facilité des transports publics et de ce que doit faire l'État n'est pas suffisant ?
Alors on laisse répondre Jean-Marc Tourlion. Président de la FNAIM,
alors,
c'est un poids lourd.
Moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de fatalité à ce que ce secteur soit sous perfusion de l'argent public. Même si...
On ne va pas être amis.
Même si... ne soit pas sous perfusion.
Ah, bon.
Ne soit pas sous perfusion.
Pardon, j'ai
même
compris
si,
le contraire.
Même si beaucoup considèrent que l'immobilier rapporte plus que ce qu'il est subventionné par l'État, et c'est exact. Mais à un moment donné, nous avons quatre piliers dans une politique du logement. En France, nous avons le logement social, nous avons le parc privé locatif, l'accession et l'aide personnelle. Moi, je pense que sur l'accession, il faut laisser faire le marché. Il y a, d'ailleurs, il s'exprime là très correctement. Je pense que sur le parc privé locatif, il faut avoir une politique de reconnaissance du statut du bailleur privé comme étant producteur du service au logement, avec une neutralité fiscale entre l'investissement dans le neuf et l'investissement dans l'ancien. Je pense également qu'il faut supprimer le zonage. Le zonage, il a concentré...
Qu'est-ce que c'est ?
Le zonage, c'est le fait d'avoir, dans certaines zones, des avantages fiscaux propres à l'investissement qu'on ne retrouve pas dans d'autres territoires. Parce que ces zones sont dites tendues.
C'est une injustice territoriale.
Voilà. Or, on a, de mon point de vue, concentré à ce moment-là la production de logements neufs et concentré en réalité la demande également sur ce type de zone. Et on a oublié nos territoires. 100 000 logements par an vacants de plus en France. Quand on dit vacants, ça veut dire qu'ils sont obsolètes. Et cette reconquête du logement existant dans les territoires, c'est une des clés, à mon avis, aussi du logement des Français et aussi du rééquilibrage du territoire. Vous savez, les gilets jaunes, c'est un problème de cohésion des territoires. Et il n'y a pas de cohésion d'un peuple sans cohésion des territoires. Et ça passe aussi par le logement. Enfin, statut du bailleur privé, je l'ai dit, suppression du zonage, bien évidemment. Et puis, je vous rejoins, il faut que... Vous savez, le zéro artificialisation nette, c'est en réalité l'État qui reprend la main sur la liberté des collectivités territoriales. Alors, il y a une responsabilité des maires, et elle est grande dans les droits à construire, parce que la France manque de droits à construire. Mais il faut effectivement... redonner la place aux collectivités, y compris pour la rénovation énergétique.
Sylvain Lévy, vous êtes un entrepreneur, s'il en est. Alors, c'est vrai, l'intervention des pouvoirs publics, vous voyez ça de quel œil dans ce domaine-là ?
Alors, je vais vous dire, il ne peut pas y avoir d'aménagement du territoire sans politique publique, pour être très clair. Maintenant, de quel type de politique publique nous parlons ? Attention, c'est là. Donc, est-ce que c'est une tentation jacobine de centraliser l'aménagement du territoire ? Pour moi, c'est une vaste connerie, clairement. Il faut laisser le pouvoir aux régions et aux collectivités locales. On a ôté aux maires tous les pouvoirs qu'ils avaient avec des dotations qui ont fondu comme neige au soleil, où on a véritablement des dotations qui ont été absolument saignées, avec des transferts de compétences sans y associer les recettes. Vous prenez le maire d'une ville qui veut bien construire, le seul problème c'est que pour construire, il faut aménager, il faut avoir de la mobilité, il faut avoir des espaces publics, il faut avoir des gymnases, il faut avoir des écoles. Donc ils sont pris dans une équation qui est en même temps terrible. Moi je pense
Et là-dessus c'est important parce que ils n'ont pas forcément les compétences, et on a vu aussi le fameux phénomène des carrefours, où on a le pays en Europe où il y a le plus de carrefours, les carrefours étant offerts, semble-t-il, par la grande distribution, et qui pouvaient s'implanter dans des zones qu'ils négociaient avec les collectivités.
Tout ça,
alors donc c'est compliqué aussi,
ce
droit à construire, est-ce qu'ils savent le maire d'une petite ville ?
Les maires en général sont des bâtisseurs, je vais vous dire, c'est un faux débat de penser que les maires ne veulent pas bâtir. Le seul problème c'est qu'ils sont dans une équation insoluble, ils sont ce qu'on appelle sur des contraintes. Moi je ne suis pas pour fustiger les maires, au contraire.
Je pense
qu'il faut aussi saluer l'action des promoteurs immobiliers. Mais je vais vous dire, on a un vrai sujet dans ce pays, c'est qu'aujourd'hui le stock de promotion immobilière, il n'a jamais été aussi bas, depuis plus de 40 ans. Et que se prépare actuellement une crise de l'offre de logements neufs qui est incroyable. Et Jean-Marc Tourlion, on peut le dire, aujourd'hui, le fait qu'on ait une offre de logements neufs si basse, si terrible pour l'économie nationale, renvoie les populations sur le logement ancien. Résultat, on a des effets mécaniques d'augmentation des prix du logement, du marché locatif et des prix. À un moment donné, il faut bien se poser la question. Si on fait fuir les classes moyennes des centres-villes, si on fait fuir les classes moyennes de certains centres urbains, qu'est-ce qu'on fait ? La question qu'il faut poser aux politiques, c'est comment vous logez les Français ? À partir de là, il faut avoir une politique offensive, c'est-à-dire ralentir l'inflation normative sur les autorisations d'urbanisme et laisser les promoteurs faire leur boulot, sous la houlette d'organismes publics, par exemple, ou d'aménagement. C'est dans le rapport Rebsamen, il y avait des préconisations extrêmement intéressantes pour redonner le pouvoir aux régions et essayer de fluidifier le marché du logement.
Merci. Jean-Marc Tourlion, vous avez 2 minutes pour terminer ce magnifique panel. Je vous écoute.
Moi, je suis moins enthousiaste sur l'action des maires que ne le dit Sylvain Lévy-Valency, parce qu'en réalité, il y a un mouvement par capillarité issu des dernières élections municipales qui engendre un courant de maires non bâtisseurs, y compris ceux qui avaient la volonté de bâtir. Et on voit des maires qui se sont enorgueillis d'avoir annulé 600 permis de construire dans leur commune une fois qu'ils ont été élus. Je dis à ces maires, attention, parce que l'État va recentraliser le droit si vous n'êtes pas capable de les assumer.
Et pourquoi ils annulent, d'après vous ?
Parce que vous avez un mouvement des Français qu'il faut réconcilier les Français avec la densification. Il y a un mouvement des Français aujourd'hui qui est « not in my back ». Parce que derrière la densification, on y associe beaucoup de choses. Nous avons fait un sondage auprès des jeunes, et je vais finir par là. Nos jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent habiter en maison individuelle, et le premier facteur de leur choix, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est de vivre dans un cadre paisible. Ça peut paraître comme ça assez anodin, mais ça transcrit beaucoup de choses. La ville n'est plus vécue comme étant un élément de sécurité, dans tous les sens du terme. Et là, il y a un enjeu pour les maires. L'enjeu, c'est que la ville soit apaisée et qu'elle ne soit pas agressive.
On retombe sur le programme électoral.
On retombe sur le programme électoral.
Redonner le pouvoir
aux maires. Celle qui défend les entreprises, les patrons et maintenant l'immobilier, peut-être. Un petit mot de conclusion pour ce panel, ma chère
Sophie.
J'ai
toujours évidemment défendu l'immobilier. D'ailleurs, on ne disait pas quand le bâtiment va, tout va ?
Exactement.
Et on le dit toujours.
Et quand le bâtiment va pas, alors.
Mais oui, et non, moi, je pense que, et c'est mon mot de conclusion, je pense que il faut revoir la place de l'État dans tout cela, car ceux qui savent, c'est vous, c'est nous, les consommateurs et les citoyens. Et donc, il faut l'État dans des missions régaliennes, point final.
Si je peux me permettre juste de dire, il y a une position qui est défendue par les organisations professionnelles, c'est de créer un ministère de plein exercice. Un ministère d'État.
Il n'y avait qu'un secrétaire d'État, c'est vrai.
Un vrai ministère d'État du logement, qui ne soit pas uniquement dépendant de Bercy, et voire même une loi de programmation sur un temps long, à l'instar de ce que fait la défense ou l'éducation.
Quand le ministre est très mauvais.
Oui, mais je sais.
Messieurs, dames, merci. Je vous demande de laisser la place. Le prochain panel s'intitule « L'accumulation des erreurs ». Vous n'en faites jamais. Laissez la place à vos invités qui, bien sûr, n'en font pas, puisqu'il s'agit du président de Nexity, notamment, ainsi que le directeur, le PDG de LLFP, ou encore la chargée d'études d'IREF et la présidente de Parc Lannon. On les accueille tout de suite.